Salut, ici Ziad Malouf. C'est une nouvelle ère pour l'Atelier des médias, désormais diffusé à 11h10, heure de Paris pour l'antenne Monde, et 11h10, temps universel pour l'antenne Afrique. Une émission en continu, en plus, sans coupure pour le flash de l'admi. Pour inaugurer ce créneau et ce format, nous avons choisi de vous faire réentendre une de nos productions les plus importantes à nos yeux. Importante par son sujet, l'enquête sur l'affaire Cahuzac, par sa portée et par son influence sur ce magazine. Avant de diffuser ce récit de Fabrice Arfi, nous doutions sincèrement de la pertinence de cette forme de narration. À vous de juger maintenant. Bonne écoute.
Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Jérôme Cahuzac a 59 ans, désigné ministre du budget. C'est un chirurgien réputé, député maire de Villeneuve-sur-Lot. Il était le patron de la commission des finances à l'Assemblée.
Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation, car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Et c'est donc devant la justice que je m'expliquerai devant ces contradicteurs, en attendant d'eux des éléments probants qui, à ce jour, font manifestement défaut. Merci, monsieur le député, de m'avoir permis de le dire devant la représentation nationale.
Moi, mes questions sont très simples.
Non, mais...
Pourquoi vous n'avez pas déclaré ce compte à l'UBS ?
Non, moi, ma remarque est, vous affirmez que l'administration a été alertée. Je vous fais simplement remarquer que si elle a été alertée, je ne comprends pas pourquoi l'administration n'en fait rien.
Ça, c'est en second rideau. La première question, c'est pourquoi vous n'avez pas déclaré ce compte à l'UBS ?
Parce que je n'en ai pas.
RFI.
Bonjour à tous, donc je suis Fabrice Arfi.
C'était il y a quelques mois, lors d'une formation sur le journalisme d'enquête organisée par CFI et Mediapart à Tunis. Fabrice Arfi prenait la parole devant un parterre de collègues originaires du Maghreb. Ce jeune confrère a rejoint Mediapart en 2008 à la création du site. Il avait alors 26 ans. Depuis, il s'est illustré en révélant les plus grands scandales de la vie politique et financière française. L'affaire Woerth-Bettencourt, l'affaire Karachi, l'affaire libyenne de Sarkozy et plus récemment l'affaire Cahuzac, du nom de ce ministre du budget socialiste qui possédait un compte non déclaré en Suisse. L'affaire Cahuzac en bloc et en détail, c'est le nom d'un livre publié par Arfi en 2013 et cela pourrait aussi être le titre de cette leçon de journalisme. Émission sans question cette semaine, à écouter avec attention.
L'affaire Cahuzac, en réalité, est née dans l'esprit, dans mon esprit en l'occurrence, avec l'affaire Bettencourt. On est en juin 2010, nous sortons à Mediapart ce qui deviendra l'affaire Bettencourt. La présidence de la République est alors entre les mains de M. Sarkozy. Le ministre du budget de l'époque s'appelle Éric Woerth. Ils sont d'un parti qui est le parti majoritaire de droite qui s'appelle l'UMP. Et il se trouve qu'à cette période, il y avait un président de la commission des finances de l'Assemblée nationale en France qui était socialiste, que M. Sarkozy avait fait passer comme un grand geste démocratique de mettre un socialiste à ce poste-là, qui est un poste très puissant en France, on le sait peu. C'est un poste, par exemple, pour vous montrer l'étendue de la puissance de ce poste, qui permet au président de la commission des finances d'avoir accès aux dossiers fiscaux personnels de tous les Français. Et cet homme, c'est Jérôme Cahuzac. Et par pur opportunisme journalistique, je dis à Fabrice Lam, avec qui je travaillais à l'époque, je dis, voilà, on est dans une affaire Bettencourt où la question fiscale est considérable, où est mise en cause lourdement un ministre du budget UMP qui s'appelle Éric Woerth. Peut-être que par la fonction qui est la sienne et le poste politique qu'il occupe en tant que socialiste, Jérôme Cahuzac pourrait nous aider à tirer des nouveaux fils. Et donc, je me rappelle très bien avoir échangé avec Jérôme Cahuzac à cette époque, au téléphone, que j'avais trouvé très en arrière de la main sur l'affaire Bettencourt et sur Éric Woerth. Et le 20 juin 2010, au micro d'une radio périphérique, c'était un dimanche, Jérôme Cahuzac dit, Il n'y a pas d'affaire Bettencourt, il n'y a pas d'affaire Woerth. Woerth est un honnête homme.
Alors, autre affaire, Jérôme Cahuzac, c'est celle mettant en cause Liliane Bettencourt et de manière indirecte Éric Woerth et son épouse qui gèrent depuis 3 ans certains actifs.
Je ne crois pas qu'il y ait d'affaire Bettencourt. Il faut quand même faire attention
affaire
aux
Bettencourt
mots.
Affaire Bettencourt ou affaire
Woerth? Il n'y a ni affaire Bettencourt ni affaire Woerth. Pour l'instant, en tout cas, il faut quand même faire attention aux mots qui ne sont pas anodins. Éric Woerth est, je crois, un honnête homme. Avoir été ministre du Budget et trésorier de l'UMP était évidemment une demande de Nicolas Sarkozy, mais une demande déraisonnable et qui met Éric Woerth dans une situation, je le répète, intenable.
Ouais, c'était extrêmement surprenant comme déclaration, puisqu'à l'aller, à rebrousse-poil de tout ce que disait son parti politique, et pas seulement son parti politique, de ce que nous avions rendu public.
Bon. Chose de surprenant
et donc ça avait fait comme une petite alerte, comme ça. On est à l'été 2010 et puis j'oublie. Voilà, le temps passe, Mediapart se consacre à plein d'autres enquêtes et voilà qu'en mai 2012, François Hollande devient président de la République et nomme un homme qui s'est montré très efficace pendant la campagne comme ministre du Budget, qui est Jérôme Cahuzac. Et quelle est la première chose que fait Jérôme Cahuzac quand il arrive au ministère du Budget, alors que c'est la crise, alors qu'il y a la dette, le chômage, problèmes financiers? La première chose que fait Cahuzac, c'est qu'il demande à un ami à lui, qu'il avait connu dans le sud-ouest de la France, de réaliser une expertise sur une autre affaire judiciaire qui met en cause Éric Woerth, qui est une affaire dite de l'hippodrome de Compiègne en France, et comment Éric Woerth, ministre du Budget, a bradé des biens de l'État pour des sociétés amies, alors que l'État était contre cette vente, et donc demande un rapport à cet expert qui n'y connaît rien en hippodrome, qui n'y connaît rien en immobilier, qui n'y connaît rien en domaine, qui n'y connaît rien en forêt, qui sont les 4 thèmes de cette enquête. Il n'y connaît rien, mais il travaille beaucoup pour M. Cahuzac, puisque M. Cahuzac l'avait déjà fait travailler dans sa municipalité, où il avait fait une étude sur l'huile de colza. Et donc ce monsieur rend un rapport qui fait 10 pages, dont 2 sont réellement consacrées à la vente et à Éric Woerth, et blanchit totalement Éric Woerth dans cette histoire, alors que la justice enquête déjà sur ce dossier, et que les experts de la justice, en l'occurrence d'une cour qui s'appelle la Cour de justice de la République, avaient rendu un rapport que Mediapart avait rendu public quelques semaines avant, qui était un rapport de 155 pages, autrement plus conséquent puisqu'ils avaient accès à toutes les pièces du dossier, qui était accablant pour Éric Woerth, alors que l'expert ami nommé par Jérôme Cahuzac avait fait un peu une expertise au doigt mouillé. Et donc là, on est en juillet 2012, je me souviens, l'affaire Bettencourt, je me rappelle de Jérôme Cahuzac au téléphone, de sa déclaration, il n'y a pas d'affaire Woerth, etc. Et je me suis dit, mais bon Dieu, mais est-ce qu'il y a un secret entre ces deux hommes pour que Jérôme Cahuzac, socialiste, déploie autant d'énergie à couvrir, en toutes circonstances, à chaque fois qu'il y a une affaire judiciaire, celui qui est censé être son adversaire politique? Je vous raconte ça parce que c'est vraiment le déclencheur de l'enquête Cahuzac, pour moi. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'assume très bien l'idée que quand on est journaliste, qu'on veut faire une enquête, on peut avoir l'esprit mal tourné. Et parfois, il faut avoir l'esprit mal tourné. C'est-à-dire se poser les questions qui dérangent. C'est-à-dire imaginer qu'il peut y avoir quelque chose d'inavouable entre ces deux hommes. Ça ne veut pas forcément dire que ça existe. Mais si on ne se pose pas la question, on n'aura jamais la réponse. Et c'est donc à ce moment-là, en juillet 2012, que je décide, et on en discute comme ça au journal, mais comme une discussion classique, d'enquêter sur Jérôme Cahuzac. Mais sans rien savoir de ce que je vais découvrir. Donc je passe, et c'est là, la phrase est beaucoup revenue, ça demande du temps et de l'argent. Et donc j'ai perdu du temps en enquêtant sur Jérôme Cahuzac, sur sa personnalité politique locale, sur son parcours électoral, sur sa vie professionnelle passée. Il était chirurgien d'implant capillaire, et puis on commençait à apprendre des choses. Il a fait beaucoup de lobbying pour l'industrie pharmaceutique. Il a travaillé dans un cabinet ministériel qui était un cabinet du ministère de la Santé, où il s'occupait de toutes les mises sur le marché des médicaments et des scanners. Donc c'est un peu comme, on peut appeler ça une sorte de super enquête de voisinage sur un homme. Donc voilà, ça implique de se déplacer, de rencontrer beaucoup de gens, y compris dans les circonscriptions, c'était dans le sud-ouest de la France où il était élu. C'est un stade d'enquête où je reste extrêmement discret quand même. Et c'est aussi un stade d'enquête documentaire. C'est-à-dire, après on en parlera concrètement, mais d'accumulation d'éléments qu'on peut avoir en source ouverte. Par exemple, faire l'historique de toutes ces interventions à l'Assemblée nationale. ces dépôts d'amendements, ces prises de parole en commission. Alors c'est un travail de bénédictin, hein. Ça prend un temps fou, mais je commence grâce à ça à découvrir que, alors qu'il est député, contrairement à son image de Torquemada des laboratoires pharmaceutiques, en fait, il essaye de faire passer des amendements qui sont très profitables à certains labos pharmaceutiques. Et puis, autre source ouverte qui existe dans beaucoup de pays, le tribunal de commerce, ou le registre du commerce et des sociétés. Et là, en moyennant un tout petit peu d'argent, parce qu'il faut payer ces documents, mais c'est normal, hein, c'est pas de la corruption, on découvre les statuts de certaines sociétés qui sont des sociétés de lobbying pour les industries pharmaceutiques de Jérôme Cahuzac, notamment à l'époque où il est député. Donc là, on commence à se dire, commence à y avoir quelque chose là-dessus. Et en discutant avec les gens, j'entends parler d'une fortune considérable accumulée par Monsieur Cahuzac. Un train de vie important, très beaux appartements, donc on a les adresses, on va voir, etc. Le problème n'est pas d'être riche, hein. On peut être riche pour ce qu'il veut. Mais c'était une donnée. Et grâce aux sources que nous avions pu accumuler à Mediapart au fil du temps, j'ai pu avoir accès, évidemment je ne vous dirai pas comment, mais grâce à des sources fiscales, je ne vous dirai pas par qui, mais j'ai pu avoir accès à des déclarations d'impôts de Jérôme Cahuzac. Trois déclarations d'impôts de lui et son épouse, c'était des déclarations communes. Donc je voyais ce qu'il déclarait à l'administration fiscale comme revenu. Et ça ne correspondait pas à ce qu'on me racontait concernant ses émoluments en tant que lobbyiste pour l'industrie pharmaceutique et en tant que chirurgien d'implants capillaires, qui est très lucratif, hein, parce qu'en France, les implants capillaires, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, et Jérôme Cahuzac était l'un des plus chers de la place de Paris. Je dis ça parce que non remboursé par la sécurité sociale, ça permet de faire beaucoup de blagues, quoi, beaucoup d'argent au noir non déclaré. Donc là, encore une fois, ça n'est encore que de l'intuition à chaque fois. Vous savez, l'intuition plus l'intuition plus l'intuition, ça commence à faire des faits. Voilà. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, il manque de l'argent quelque part. Et après plusieurs semaines, on est au mois de septembre 2012, fin septembre dans mon souvenir, après plusieurs semaines infructueuses, c'est pour ça que l'une des qualités dans ce travail est d'être pugnace et de ne jamais, 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 jamais lâcher. Si on vous refuse un rendez-vous une fois, vous essayez jusqu'à la centième fois s'il le faut pour avoir le rendez-vous. Souvent, ça marche. J'arrive à avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui, par fonction, a eu à connaître d'assez près une partie de ce que Jérôme Cahuzac a appelé lui-même sa part d'ombre. Voilà. Et j'avais rendez-vous avec cette personne, je l'ai raconté dans un bouquin, donc je peux le dire, au Café de Flore, à Paris, la première fois que je mettais les pieds là-bas, où on boit un chocolat chaud absolument délicieux, et je décide d'aller au culot avec cette personne. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il manque des sous dans les déclarations de M. Cahuzac, et cette personne, je lui dis, comme si c'était un acquis de mon enquête, que je savais qu'il y avait un compte à l'étranger. Je vous assure que ça s'est passé comme ça, hein. La personne me répond « Vous ne trouverez jamais ». Alors là, ça a été le point de bascule de l'enquête. Parce que « Vous ne trouvez jamais », ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'on me met au défi et moi j'aime ça, et donc je vais tout faire pour trouver. Et surtout, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où l'angle de l'enquête est apparu naturellement, c'est trouver le ou les comptes non déclarés du ministre du Budget. Puisque là se dessine alors un tableau incroyable, c'est-à-dire que l'homme qui, au sein du gouvernement, est censé lutter contre la fraude fiscale et les comptes non déclarés, est lui-même un fraudeur fiscal. C'est le pompier pyromane. Et alors là, grâce à un certain nombre de sources que nous avons depuis des années, on reprend l'enquête depuis le début, on revoit des gens, on refait le film, etc. J'apprends que, d'abord, il y a bien eu un compte, notamment par des sources, on va dire, financières et certaines liées aux services de renseignement. Et puis surtout, j'apprends qu'il existerait un enregistrement dans lequel Jérôme Cahuzac parlerait de son compte en Suisse. Alors j'en entends parler une fois, j'en entends parler une deuxième fois. Je découvre que cette histoire est quand même en fait une sorte de secret de polichinelle que je vais déterrer là, comme ça avec ma curiosité mal placée. Et puis je rencontre quelqu'un qui a entendu l'enregistrement. Et puis la personne l'a eu entre les mains. Et puis une autre qui en a toujours un exemplaire. Et ça a été... ça tombe jamais tout cuit, hein, ce type d'information. Et donc il a fallu plusieurs rendez-vous pour finalement avoir une copie de cet enregistrement. Et en même temps, je découvre, dans le même temps, qu'un agent du fisc avait tenté d'enquêter sur le compte suisse de Jérôme Cahuzac en 2008, qu'il avait fait des rapports là-dessus, notamment un rapport en juin 2008 qu'il avait adressé à, roulement de tambour, trois petits points, Éric Woerth, en lui disant « J'ai deux sources extérieures au service qui me disent que M. Cahuzac a un compte en Suisse, je n'ai pas les moyens de vérifier, je vous demande de pouvoir faire une enquête en bonne et due forme sur cette personne. » Et Éric Woerth, la seule réponse, c'est que l'agent du fisc sera renvoyé. Il sera renvoyé. Hein. Aujourd'hui, il a été réintégré grâce à l'affaire, etc. Mais cet homme a vécu un harcèlement administratif absolument extravagant, puisqu'il a été renvoyé de l'administration, quand même. Et donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a vu juste, on dit que c'est une intuition. Quand on a vu faux, c'est un a priori. Mais là, l'a priori était une intuition. Il y a une histoire commune, secrète, entre guillemets, entre Jérôme Cahuzac et Éric Woerth. Pendant l'un de mes rendez-vous, notamment avec des gens du fisc, je vois sur la table une carte de visite d'un détective privé. Donc j'ai regardé, pendant qu'il me parlait, le nom, et j'ai pris le numéro discrètement, et c'était un détective qui travaillait sur Jérôme Cahuzac, voilà, qui a été utile dans l'enquête. Donc pas de problème à aller chercher les informations quand elles sont sous nos yeux. Hein, voilà. Et donc à partir de ce moment-là, nous avons l'enregistrement, nous arrivons à faire expertiser d'abord que la bande est intègre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été manipulée. Pour ça, on a fait venir en fait la même personne qu'on avait fait venir pour l'affaire Bettencourt. Donc là, il y a des trucs et astuces très simples, moi, que j'avais découvert dans l'affaire Bettencourt. J'y connais absolument rien. Il se trouve que j'ai une source qui est un ancien de la direction de la surveillance du territoire, l'ancien contre-terrorisme français, la DST, qui s'occupait des écoutes dans les années 80. Et il m'avait dit, tu verras, pour voir si le son n'a pas été monté, il faut que tu exacerbes les aigus, parce que ça va pousser le souffle de la discussion. Et tu verras s'il y a un souffle continu ou si des moments, il y a des petites coupures ou pas, etc. Bon, voilà, c'est tout ça pour vous dire que c'est extrêmement artisanal dans l'affaire Bettencourt. On a même été jusqu'à vérifier la météo de certains jours pour voir que quand le gestionnaire de fortune disait « Ah, madame, il fait beau aujourd'hui », bon, bah, comme on avait la date de l'enregistrement, est-ce qu'il avait fait beau ce jour-là, tel endroit, etc. Non, mais c'est vrai que ça prête à sourire, mais comment dire, il n'y a pas de mauvais recoupement. Je veux dire, dans une enquête... ça se joue sur la couleur des chaussettes, sur le détail. Hein. Les vérifications, ça passe aussi par là. Voilà. Et donc, dans l'affaire Cahuzac, ensuite, moi, j'ai, avec cet enregistrement très dur à entendre, j'ai essayé de reconstituer la manière dont cet enregistrement a eu lieu. Bon, et c'est là où j'arrive, grâce à plusieurs sources, à comprendre ce qui s'est passé, qui est invraisemblable. C'est-à-dire que c'est l'histoire... qu'on a tous, je crois, connu une fois dans son existence, ce qu'on appelle le pocket call, l'appel de la poche, c'est quand vous rappelez un correspondant avec votre téléphone sans faire exprès. Là, c'est le côté hallucinant de cette histoire. Il se trouve que Jérôme Cahuzac, à la fin de l'année 2000, au moment de cet enregistrement, appelle, il est député, Jérôme Cahuzac, appelle le maire de la ville dans laquelle il se présentera plus tard, qui sera son adversaire politique, le député... PS qui est Cahuzac appelle le maire qui est de centre droit, qui est bâtonnier, avocat, et lui dit « Écoute, mon cher Michel, j'ai obtenu que Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur de l'époque, vienne inaugurer le commissariat de Villeneuve-sur-Lot dans un mois. » Il raccroche. Et son téléphone rappelle la personne en question, alors que Jérôme Cahuzac est en train de discuter avec son gestionnaire de fortune de son compte en Suisse. Et voilà ce qu'enregistre le message. Alors il nous faut décrypter l'intégralité de la bande, identifier la personne avec laquelle il parle, ce que nous arrivons à faire, donc quelle est l'identité du gestionnaire de fortune, les circonstances précises de cet enregistrement. Et puis, poursuivre l'enquête. Donc on a des éléments assez précis. Et on découvre, grâce à plusieurs sources, que l'argent qui avait été planqué en Suisse a été transféré, juste avant que Jérôme Cahuzac ne devienne président de la Commission des Finances, à Singapour. Alors là, on n'a pas d'enregistrement, mais on a des sources. Beaucoup de sources, nombreuses. Bancaires, financières, liés, comme je le disais, au monde politique ou services de renseignement, liés à des entourages de Jérôme Cahuzac. On refait tout le film de cet enregistrement, comment il s'est baladé. Alors on découvre qu'il a été déposé chez un notaire, chez un huissier, qu'il a été entre les mains d'un tel, d'un tel, d'un tel. Voilà. Et de fil en aiguille, nous arrivons à une enquête qui n'est jamais totalement bouclée. Une enquête. Hein. Vous avez jamais, en quelque sorte, le mot final de votre travail. Mais à partir, il y a un moment où le travail est mûr pour publication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une information qui peut être publiée. Ça ne veut pas dire que l'enquête est terminée. L'enquête se fera toujours ensuite en marchant. Voilà. Mais il y a un moment où l'information est vérifiée, recoupée. On a pesé le pour, le contre. Est-ce qu'on peut aller devant un tribunal si on est poursuivi? Les avocats sont rentrés dans la boucle. On était prêts. Alors, élément fondamental d'une enquête, le respect du contradictoire. Vous savez que en France, nous sommes jugés pénalement dans le cadre de la diffamation sur un critère qui est établi juridiquement qui s'appelle la bonne foi. Nous sommes jugés sur la bonne foi. Et la bonne foi est constituée de quatre piliers en droit français. La légitimité du but poursuivi par l'article, c'est ce qu'on appelle l'intérêt public, votre question. Donc les juges jugent de l'intérêt public, ce qui s'appelle judiciairement la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle à l'égard de la personne sur laquelle vous écrivez, puisque bien sûr ça peut biaiser votre travail, si vous écrivez sur l'amant de votre femme, c'est compliqué. Bon. La prudence dans les propos, il se trouve que la langue française est faite de cette sorte de richesse, comme toutes les langues, qui permet de trouver les mots justes, c'est ça la prudence dans les propos, c'est très important dans la rédaction d'une enquête. Moi je ne suis pas du tout pour dire qu'un scandale est scandaleux. Hein, ou qu'un crime est horrible. Un crime, c'est un crime. Et si vous voulez montrer l'horreur d'un crime, bah vous montrez les faits. Et généralement, les adverbes, les épithètes masquent parfois, dans la rédaction, un défaut de précision sur les informations. Et je pense que ça dessert l'information. C'est un avis personnel. Hein. D'autres peuvent tout à fait penser autre chose. Ça ne me pose absolument aucun problème. Je vous dis juste, moi, j'aime voilà, ne pas trop en faire dans le lyrisme. De ce point de vue-là, parce que je pense que l'information, elle se suffit à elle-même sur une enquête. Bon. Le quatrième point, c'est ce qu'on appelle le sérieux de l'enquête. Et alors, le sérieux de l'enquête, qui est une définition extrêmement vague, recouvre notamment, voire essentiellement, une chose que vous devez toujours avoir à l'esprit, c'est le contradictoire. C'est-à-dire que quand vous écrivez sur quelqu'un, vous devez aller le voir ou lui parler avant publication. C'est la moindre des choses. C'est une faute de ne pas le faire. C'est pas possible d'écrire sur quelqu'un si vous n'avez pas tenté de le joindre ou tenté de lui parler et tenté de confronter les résultats de votre enquête à sa parole. Parce que d'abord, c'est démocratique de faire ça. Quand vous publiez des informations sur quelqu'un qui sont susceptibles de le mettre en cause, eh ben c'est normal qu'il puisse en répondre dans l'article. Et puis parfois, ça permet de ne pas faire de bêtises. Parce que parfois, on est sûr. Et puis la personne, elle vient avec des éléments, des documents qui vous montrent que vous avez beau être sûr, ben, c'est peut-être faux. Voilà. Bon. Donc, de ce point de vue-là, on décide, quand j'estime que l'enquête est prête, de contacter le ministre du budget. Donc, je lui envoie un mail sur sa boîte mail perso, sur sa boîte mail au ministère, et puis un mail à sa directrice de communication, qui est un mail avec 5 questions factuelles, précises. Voilà, nous allons publier telle enquête, voici les questions, etc. L'histoire retiendra qu'au moment où ce mail est reçu, Jérôme Cahuzac est en train de négocier la loi de finances au Sénat, que Marion Boujard, qui est sa directrice de communication, lui apporte une copie du mail. Jérôme Cahuzac, on sait tout ça parce que les témoins ont raconté ça, a déchiré le mail. Il a dit, je le cite, « des merdes comme ça, je ne veux rien en savoir ». Il a continué à défendre la loi de budget. Et à chaque pause de séance, il a harcelé téléphoniquement le seul journaliste de Mediapart qu'il connaissait un peu, qui s'appelle Laurent Mauduit, qui s'occupe des affaires économiques, à qui on doit notamment l'affaire Tapie à Mediapart. Il agonie de texto, de manière extrêmement surprenante, puisqu'il ne dément jamais nos informations. Il va lui dire dans un texto, par exemple, c'est dégueulasse ce que vous faites. En fait, j'ai compris, vous vous vengez parce qu'on ne vous avait pas invité à une conférence de presse. Ce qui est extrêmement bizarre quand même. Je vous assure, hein, les textos sont toujours là. Tant bien que mal, Laurent essaye de le réorienter vers moi, lui disant que lui n'étant pas concerné par cette enquête, il ne peut pas en répondre et qu'il faut en parler avec moi. Jérôme Cahuzac ne veut pas, va jusqu'à appeler Laurent Mauduit vers 11h30 du soir en lui disant cette phrase absolument incroyable, en lui disant ce que vous faites c'est absolument dégueulasse, c'est comme si vous regardiez sous les jupes de ma fille pour voir si elle est encore vierge. C'est la phrase de Jérôme Cahuzac. Et on se quitte entre guillemets au même moment, intervient, et là c'est un élément fondamental de l'histoire et de l'enquête journalistique, un homme m'appelle, il s'appelle Stéphane Fuchs, il est le dirigeant de la plus grande entreprise de communication, l'une des plus grandes entreprises de communication en France et de publicité, qui s'appelle Euro-RSCG, qui est un intime de Jérôme Cahuzac, qui est très proche de lui, qui a des contrats avec le ministère du Budget, et lui m'appelle très longuement au journal. Je l'ai comparé dans le livre au serpent K, vous savez, du livre de la jungle, un peu « et confiance », comme ça. Et lui, en fait, l'objectif était très clair. Alors, il m'a mis une tête comme ça au téléphone. Il ne pouvait pas en placer une, il n'arrêtait pas de parler. C'était, en fait, à la fois, à main gauche, de me dissuader de publier l'enquête, et à main droite, d'essayer de savoir ce que j'avais pour être aussi affirmatif. Voilà. Donc là, on est dans un espèce de jeu du chat et à la souris, parce que moi, je ne peux pas dévoiler... Il y a parfois des billes qu'on ne peut pas dévoiler, des biscuits qu'on ne peut pas dévoiler. Bon. Donc on était dans une discussion absolument absurde, mais qui était une forme de pression très très douce, hein. très douce, mais qui était... Fabrice Arfi, vous avez une grande réputation sur la place de Paris, on a déjà vu des journalistes se tromper, vous vous rendez compte ce qui peut vous arriver. Si vous me dites que vous doutez, je vous fais rencontrer le ministre. Si vous me dites que vous êtes sûr, ça sert à rien qu'il vous rencontre. Donc je lui ai dit, mais c'est absurde ce que vous me dites. Comme vous me dites, donc si j'écris pas, je peux voir le ministre. Mais non, moi je vous dis que je vais publier, je veux le rencontrer. S'il ne veut pas me rencontrer, tant pis pour lui. Au même moment, les avocats de Jérôme Cahuzac se mettent en rapport avec les avocats de Mediapart. C'est-à-dire qu'il y a eu ce lundi soir une espèce de d'ébullition comme ça. Donc c'était comme dans les séries américaines, mes avocats vont appeler vos avocats, ce qui s'est passé. Donc il y a eu des discussions où on se montre l'écrou comme ça, etc. On va vous attaquer, on est sûr de nous, mais on va vous attaquer, mais on est sûr de nous. Et on se quitte comme ça, un peu marie. Sur l'idée que je ne rencontrerai pas le ministre. Bon, au bout d'un moment, si la personne ne veut pas vous rencontrer, tant pis pour elle. Hein. On va pas. Si la... bon, on met dans l'article, sollicité à plusieurs reprises, il n'a pas voulu répondre à nos questions. Voilà, ça c'est son problème. Mais il faut le contacter, lui laisser un peu le temps pour réagir, a fortiori si c'est un ministre. La nuit, manifestement portant conseil, c'est par nos avocats qu'on apprend que Jérôme Cahuzac est disposé à nous rencontrer. Mais monsieur le ministre veut que je vienne en présence d'un directeur. Et donc, nous allons avec... C'est vrai, c'est authentique, tout ce que je raconte est authentique. Hein. Il ne voulait pas être qu'avec le primitif. Et donc, on va avec François. On va tous les deux, le mardi 4 décembre au matin. Il faisait un froid de canard au ministère des Finances pour aller rencontrer Jérôme Cahuzac dans son bureau. Jérôme Cahuzac avait déposé son iPhone qui est comme ça, sur le bureau. Il était en face de moi. François était là. Il y avait sa directrice de cabinet qui était là. Et il me dit, j'enregistre tout. Et donc moi, j'ai collé mon iPhone au sien et j'ai dit, bah moi aussi.
Moi, mes questions sont très simples. Hein.
Non, non, mais...
Pourquoi vous n'avez pas déclaré ce compte à l'UBS ?
Non, moi, ma remarque est, vous affirmez que l'administration a été alertée. Je vous fais simplement remarquer que si elle a été alertée, je ne comprends pas pourquoi l'administration n'en fait rien.
Ça, c'est en second rideau. La première question, c'est pourquoi vous n'avez pas déclaré ce compte à l'UBS ?
Parce que je n'en ai pas.
Parce que vous n'en avez pas.
Non, c'est ce que je vous ai dit, je n'en ai pas, j'ai jamais eu.
Vous n'en avez pas, vous n'avez jamais eu. Vous maintenez ça, vous n'avez pas eu de compte.
Je vais le répéter jusqu'à la cinquième là, hein, je vous l'ai dit.
Non, mais voilà. C'est bien de l'entendre. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais en propos préliminaire. Il y a eu des échanges entre avocats, M. Fuchs a tout de suite brandi la menace judiciaire.
Ah, ça c'est clair que si vous publiez ça, j'attaquerai.
Mais, enfin, vous pensez.
C'est clair, hein. Vous en foutez peut-être.
Hein, mais vous pensez bien qu'on ne s'en fout pas. Vous pensez bien que.
Je ne peux pas faire autrement.
Non, mais vous savez bien qu'on est habitué à ce genre de situation.
Oui, je pense que ce dossier que vous avez publié sur Sarkozy et les millions de la Libye et que ça.
Et que ça
donc vous publiez parfois des choses un peu légères.
Et que c'est quoi ?
Ça donnait quoi ? Vous avez continué à publier ?
Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte ?
Oui. Bon, bah écoutez, faites ce que vous voulez. Que, en tout cas, si vous publiez, j'attaquerai.
La discussion a duré 9 minutes 50. C'était assez tendu, on peut dire. François a fait une intervention assez solennelle auprès du ministre pour dire « Monsieur le ministre, comprenez bien que... Mediapart ne peut pas prendre le risque dans une telle enquête de se tromper, donc à ajouter encore la gravité, mais qui était nécessaire à la situation pour montrer le poids des informations qui étaient les nôtres. Jérôme Cahuzac était dans un espèce de déni total, enfin de voilà, donc il dément, il nous dit comme ça, mais il ne répond à rien précisément, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le relance, il répond à rien, sauf à la toute fin de la discussion, je l'interroge sur un déplacement qu'il a fait en Suisse au moment du transfert de fonds vers Singapour. Et Jérôme Cahuzac a une expression très étrange où, en démontant de la tête comme ça, il dit... je lui dis, mais est-ce que vous y êtes allé? Il me dit, mais pas plus qu'à Milan ou New York.
La question est simple, est-ce que vous vous êtes rendu à Genève début 2010?
Pas davantage qu'à Turin, à Milan ou, on sait rien, à New York.
Donc non? Non ou pas davantage?
Je n'ai pas de compte en Suisse et je n'en ai jamais su.
Alors on ne sait pas si ça veut dire j'y suis allé ou j'y suis pas allé. C'était assez étrange comme phrase. Et voilà, l'entretien prend fin. C'est pas un moment agréable. Hein. Je dois vous dire que... Comment dire, ces histoires sont aussi faites de pâte humaine. Moi, j'ai rien personnellement contre Jérôme Cahuzac. Je veux dire, c'est pas mon souci. Et donc, c'est pas un moment agréable, plaisant pour un journaliste d'arriver, d'aller dire à quelqu'un, écoutez, je vais sortir une information qui va briser votre carrière. Mais c'est sa faute. Voilà, c'est pas de ma faute. C'est lui qui a fraudé le fils, c'est pas moi. Mais tout ça pour vous dire la dimension qui existe réellement et qu'il faut pas cacher. Qu'il faut pas cacher. Ce sont des moments pénibles, mais... Il y en a des bien pires, il y en a des beaucoup plus joyeux. Voilà.
Hier soir, je le disais, le site Mediapart l'accusait, lui qui est chargé de traquer l'évasion fiscale, d'avoir eu un compte bancaire non déclaré en Suisse jusqu'en 2010. Anne-Charlotte Inet, Clément Le Goff avec notre bureau à Toulouse.
Monsieur le Président, accusé par Mediapart d'avoir eu un compte en Suisse, Jérôme Cahuzac...
Et donc on publie notre premier article. Il avait été décidé avec l'une de nos sources dans cette histoire, celle qui nous a donné l'enregistrement à coups d'Armagnac, de ne pas utiliser l'enregistrement. Parce qu'elle pensait que ça la protégerait, ce qui était une erreur de jugement de sa part, mais peu importe, c'était son souhait. Et que l'enregistrement serait utilisé par Mediapart devant la justice si nous étions poursuivis. C'était ça notre pacte avec la source au départ. C'est pourquoi nous faisions dans le premier article une allusion à cette conversation de décembre 2000 dans laquelle Jérôme Cahuzac dit « ça m'emmerde d'avoir un compte à l'UBS, c'est quand même pas la plus planquée des banques ».
Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Ni maintenant, ni avant.
Quand on dit « Monsieur X a un compte en Suisse », on apporte la preuve irréfutable qu'il a un compte en Suisse. C'est un fait. Avoir un compte en Suisse, ce n'est pas quelque chose qui se discute. Si on l'affirme publiquement, on a un élément de preuve qui ne laisse la place à aucune polémique. Mediapart n'a rien. Mediapart apporte un enregistrement. Quand on l'écoute, on ne sait pas si c'est Donald ou Cahuzac qui parle. Mediapart fait le pari... Ouais. Que Cahuzac a un compte en Suisse. Moi, je pense, j'aime le journalisme. Ça fait 25 ans que je fais ça, j'aime ça. Je pense que ça n'est pas du journalisme.
D'accord.
C'est pas le loto, le journalisme.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Sur l'affaire Cahuzac, sincèrement, nous, on pensait à la publication du premier article que ça allait aller assez vite. C'est-à-dire que. Voilà, la vérité triomphera assez vite vu la solidité de nos informations. Et là, il s'est passé quelque chose à laquelle on n'a pas été habitué à ce point à Mediapart. C'est une forme d'aveuglement collectif et d'isolement total de Mediapart dans cette histoire. Et là, ça rejoint ce qu'on s'est dit ensemble sur la nécessité de travailler et de publier à plusieurs. Parce que ce qui se passe, c'est un rapport de force en réalité. Qui se met en place. Et là, en face de vous, même si vous avez bien travaillé, vous avez des informations, vous avez une machine de guerre, de communication qui se met en place, avec malheureusement certains confrères qui deviennent les espèces de victimes consentantes de cela, et les relais de tout cela. Et ça, dans l'affaire Cahuzac, ça a été un cas d'école médiatique de ce point de vue-là, merveilleusement fonctionné. Parce qu'on avait un Jérôme Cahuzac, d'abord, qui a démenti avec... un talent fou, droit dans ses bottes, à l'Assemblée nationale, vous avez probablement vu les images, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, je démange, je l'ai dit au président de la République, les yeux dans les yeux, en bloc et en détail, etc., etc., et que la force du démenti, dans une partie de la profession, le journalisme est malheureusement trop déclaratif, il a dit, il dément, alors que ce qui compte, ce sont les faits, que les nôtres étaient sur la table, il y a eu cet aveuglement collectif. Et nous, face à cette situation extrêmement... inconfortable et compliqué, on a dit qu'on pouvait pas rester comme ça au pied du mur. Et donc, j'ai convaincu la source, au regard de la situation, de lui dire « mais là, il faut qu'on diffuse l'enregistrement ». Là, on ne peut plus garder l'enregistrement pour le procès. Le procès, c'est dans un an, dans deux ans. Là, nous, on ne peut pas rester dans cette situation. Et la personne m'a dit, c'était son expression, « bonbon, allez-y ». Donc, on a diffusé l'enregistrement. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a toujours pas suffi, même si Jérôme Cahuzac ne démentait pas l'enregistrement. Il a mis 15 jours à dire « c'est pas moi dans l'enregistrement ». 15 jours, quand même. Hein. Et il a dit « c'est pas moi parce que mon frère ne m'a pas reconnu ». Voilà. C'était bon. Ah oui, mais soit c'est lui, soit c'est pas lui. Il le sait quand même. Voilà. Bon, on continue. C'est ce que je vous disais. Après, on ne cesse jamais d'alimenter l'enquête. Ce qui est important dans une enquête, c'est, je crois, de toujours avoir un coup d'avance, de ne pas rester à sec, parce que vous savez que en face, parfois, quand vous vous attaquez à des intérêts très élevés, ils sont très malins, très puissants. Et donc moi, j'assume très bien l'idée de parfois être plus malin. C'est-à-dire d'en garder un peu sous la pédale, de les laisser venir. Alors, sans l'enregistrement, nous n'aurions pas publié l'enquête, parce que l'information était tellement sensible que même si je savais que l'information était vraie, ça aurait été trop compliqué d'assumer devant un tribunal sans un élément concret là-dessus. Ce qui est stupéfiant par rapport à ça, et l'enregistrement, c'est que pendant 4 mois, Mediapart a été cloué au pilori par une partie de la profession qui nous disait « Où sont les preuves ?» Et nous, c'était « Mais kafkaïen !» Mais les preuves, mais vous les avez dans les oreilles. Celui qui parle le mieux du compte suisse de Jérôme Cahuzac, c'est quand même Cahuzac Jérôme. Mais écoutez, mon Dieu, vous avez un rapport d'un agent du fisc qui a tenté d'enquêter, etc. Vous avez des éléments précis et c'est ça qui est important dans une enquête. Quand vous n'avez pas d'éléments matériels pour tout, parce que vous ne pouvez pas en avoir pour tout, c'est que vos sources et que vous recoupiez des éléments précis. C'est comme pour escalader un mur. Il faut des prises. Voilà. Et ben pour une bonne enquête, il faut des prises de lecture. Et les prises de lecture, c'est des dates précises. C'est des personnages précis. Si vous êtes dans le flou, c'est qu'il y a un loup. C'est qu'il manque quelque chose. Et que vous n'emporterez pas la conviction du lecteur. Et ça vous engage toujours à poser même des questions qui peuvent paraître absurdes ou pinailler avec vos sources, mais allez toujours dans le plus précis possible, parce que si vous arrivez à le recouper, vous avez une enquête extrêmement convaincante journalistiquement. Parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas avoir des éléments matériels sur tout. Et on ne demande pas à un journaliste d'être un juge d'instruction ou un policier. C'est pour ça que nous sommes jugés sur la bonne foi. On ne demande pas à un journaliste d'arriver avec un dossier judiciaire clos pour juger pénalement les gens. On n'est pas là pour dire la qualification pénale des informations que nous rendons publiques. La qualification pénale, ça, c'est une autre histoire. Parfois, il y a une qualification, parfois, il n'y en a pas, parfois, il y a des vices de procédure, parfois, il y a la prescription, parfois, il y a plein de choses. Donc ça, c'est l'affaire des juges. Nous, nos informations, après, elles ont la vie qui sont les leurs. Et c'est vrai que pendant 4 mois, Mediapart a été confronté à une guerre face à la communication où moi, j'ai passé mon temps à la radio et à la télé, non pas à expliquer mon enquête, mais à défendre mon enquête parce que j'étais devenu l'accusé numéro un de mon propre travail et Mediapart avec. Nous étions un danger pour la démocratie. Nous étions des procureurs au petit pied. Nous étions des journalistes de bûcher. Tous ces termes ont été prononcés le plus souvent par des journalistes, d'ailleurs, avec quelques éditorialistes qui sont devenus nos procureurs en disant « Mais où sont les preuves ?» Un qui m'a même dit « Maintenant, dévoilez vos sources. » Un journaliste. Il m'a dit « Dévoilez vos sources. Ça suffit. Ça suffit. » On était dans une situation où Jérôme Cahuzac décide de nous poursuivre en diffamation. Nous sommes à la fin du mois de décembre. Sa plainte est faite n'importe comment. Il ne fait pas ce qu'il promet de faire, c'est-à-dire d'écrire à UBS pour lever le secret bancaire et montrer qu'il n'avait pas de compte. Il promet qu'il le fait, il ne le fait pas. Personne, enfin tout le monde fait comme si tout cela était parfaitement normal. Et il n'y a aucune enquête judiciaire sur nos révélations. C'est-à-dire que si on avait révélé un trafic de drogue dans un quartier populaire d'une grande banlieue parisienne, le lendemain, il y avait une enquête préliminaire pour trafic de drogue. Hein. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et donc il a fallu, dans cette situation de déséquilibre total de Mediapart et d'inégalité des armes, et nous qui étions cloués au pilori, y compris judiciaire, puisque en diffamation, malheureusement, en France, on n'enquête pas sur le fond des faits. On n'enquête pas sur le fond des faits. C'est au moment du procès qu'on le fait. Il n'y avait aucune enquête sur le fond et c'était nous qui étions en cause. Et donc Edoui Plenel a décidé de faire quelque chose d'anormal, en quelque sorte, dans une situation qui était anormale, c'est d'écrire publiquement au procureur de la République de Paris. Et qui a dit, mais vous vous rendez compte là ce qui se passe? Et le procureur, il l'a dit ensuite à la commission d'enquête parlementaire, il a pris cette lettre comme une lettre de dénonciation. Il a dit, bah, si Plenel dit juste, on poursuit M. Cahuzac. Si Plenel dit faux, on poursuit M. Plenel pour dénonciation calomnieuse. S'il n'y avait pas eu cette lettre, il n'y aurait pas eu d'enquête judiciaire. Alors que, dans le même moment, on a écrit dès le 22 décembre que l'homme qui avait l'enregistrement, celui qui a reçu sur son téléphone l'enregistrement, est allé à l'Élysée. Pas rien, quand même. Il est allé voir le patron de Jérôme Cahuzac pour lui dire « Tout est authentique, je vais tout vous raconter et je peux même vous donner une lettre manuscrite qui vous raconte tout, monsieur le Président. » Il dit ça par l'intermédiaire du directeur adjoint de cabinet de monsieur Hollande, qui est un préfet, qui s'appelle Alain Zabulon. Monsieur Zabulon lui dit quoi ? Et encore une fois, c'est authentique, je n'invente pas, ça a été dit par monsieur Zabulon et par la personne concernée, Michel Gonnel, à l'Assemblée nationale. Il a dit « Je ne peux pas poursuivre la conversation, je dois aller finir l'arbre de Noël de l'Élysée. » Parce que c'est un moment important de la présidence de la République, a-t-il ajouté. C'est authentique ce que je vous dis. C'est-à-dire que voilà le directeur adjoint du président de la République, directeur adjoint de cabinet, qui, entre un arbre de Noël et l'affaire d'État qui secoue la présidence, préfère l'arbre de Noël. Donc on a vraiment été... Et là, on est le 15 décembre. Hein, le 15 décembre, 11 jours après notre premier papier, très tôt. Et là, on est vraiment, comme je vous disais, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, on s'aveugle volontairement. Finalement, il y a, suite à la lettre de Plenel, l'ouverture d'une enquête le 8 janvier. Et les policiers, il faut le dire, notamment les policiers anticorruption français, on ne la leur fait pas, à eux, en tout cas à certains d'entre eux. Et il faut dire qu'ils ont formidablement travaillé. Et alors que l'enquête était partie très vite, très fort, qu'ils ont accumulé un certain nombre de choses, que l'un de nos témoins, de nos sources dans cette histoire, qui est un banquier genevois, a accepté de parler à la police... Donc ça a été un moment capital. Et bien dans ce temps-là, on a vu le... Et que Cahuzac était toujours ministre, qu'une enquête était en cours, on a vu le pouvoir exécutif diligenter une enquête parallèle à la justice, une enquête administrative, où le ministère de tutelle de Jérôme Cahuzac, donc c'est-à-dire que le pouvoir exécutif a enquêté dans le dos de la justice sur l'un des siens, est allé poser des mauvaises questions à l'administration fiscale suisse, qui a répondu « Il n'y a pas de compte en Suisse de M. Cahuzac ». Et cela, ça s'est retrouvé à la une du journal du dimanche. Les Suisses ont blanchi Cahuzac. Pour nous, ça a été le pire moment de l'affaire. C'est-à-dire que là, on est au cœur du cœur du cœur de la manœuvre. Au minimum, ils ont fait ça par incompétence, au pire par complicité. Mais pas moins. Pas moins.
Non seulement Jérôme Cahuzac n'aurait pas été titulaire d'un compte chez UBS entre 2006 et aujourd'hui, mais il n'aurait pas même été ayant droit économique d'un compte en Suisse de la banque à ces dates. Selon le JDD, c'est ce que révélerait le document transmis au fisc français par le fisc suisse. Le journal précise également le calendrier de la procédure. Le 24 janvier, la Direction générale des finances publiques fait sa demande aux autorités suisses. Le jour même, la demande est transmise à UBS. Le 25 janvier, UBS contacte l'avocat suisse de Jérôme Cahuzac pour avoir son autorisation et celui-ci répond par retour de courrier. Ni Jérôme Cahuzac ni la banque n'auraient donc cherché à faire traîner en longueur la procédure. Mais le JDD n'a pas eu entre les mains le document lui-même transmis par les autorités suisses. L'hebdomadaire cite une source administrative de Bercy. Il s'agit donc d'une interprétation de ces données. Celles-ci sont maintenant entre les mains de la justice. Elles ont été transmises à la Division nationale d'investigation financière et fiscale qui enquête à la demande du procureur de Paris.
Et donc c'était devenu l'affaire Mediapart. C'était l'affaire Mediapart. Et le JDD fait un papier en disant « ça n'est plus l'affaire Cahuzac, c'est l'affaire Mediapart ». Et un policier... est cité on dans l'article du JDD, le fameux Bernard Squarcini qui nous a espionné sur Sarkozy et qui nous dit « Mediapart est à l'origine du nouveau Clearstream, de la nouvelle affaire Clearstream ». Voilà. Bernard Squarcini, comme ça, il sort du chapeau. Bon, voilà. Bon. Nous, on a été alertés le vendredi soir de ce qu'allait faire le journal du dimanche. Et cela. Ben moi, j'ai eu François Bonnet et Edoui Plenel le samedi, qui tous les deux m'ont dit « Là, mon ami, ça va tanguer, mais on est là ». T'inquiète pas, on est là. Et je peux vous dire que dans un moment comme ça, moi j'étais au fond du trou, hein, je peux vous dire, j'étais... Et ben dans un moment comme ça, je pense que dans 99% des médias français, on m'aurait dit « prends des vacances, t'es trop dans cette affaire-là, calme-toi un peu ». Et à Mediapart, il y a eu un événement bon, qui a montré, mais comment dire, au fil du temps, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important l'écosystème interne, et c'est ce que vous disiez vous aussi, on a pris l'habitude de se serrer les coudes quand ça tangue. Et on a connu des moments où ça tanguait grave. Mais l'une des clés de la réussite, c'est qu'on lâche pas. Et François a fait un billet de, en réponse au JDD le jour même. Voilà, ça a permis de vitrifier la polémique et de montrer qu'on était, nous aussi, droit dans nos bottes. Donc c'était un combat, voilà. C'était un combat terrible. Sauf que, pendant ce temps, la police scientifique expertisait l'enregistrement. Et elle a conclu que l'enregistrement était authentique et que c'était la voix de Jérôme Cahuzac. Et dans le même temps, sur la foi de nos informations, le parquet de Paris a fait une demande à la Suisse. Pas l'administration fiscale qui était dirigée par Jérôme Cahuzac. La justice. Et la justice, elle, comme par magie, elle a trouvé la bonne réponse. Et donc, finalement, on est passé d'un statut d'enquête, qui est une enquête préliminaire en France, à un statut d'information judiciaire, qui est un autre statut d'enquête plus lourd, qui est confié à un juge d'instruction. Le ministre, finalement, démissionne et passe quelques semaines plus tard aux aveux, entre guillemets, ce qu'on a appelé les aveux, qui n'en sont pas en réalité, parce que Jérôme Cahuzac, dans le cabinet des juges, n'a fait que reconnaître ce que les juges avaient déjà découvert. Il n'a rien avoué, c'est pas vrai ça. Alors c'est bien, il a dit la vérité, il a reconnu. Mais donc pendant tant de mois, on a été confronté à une situation incroyable à Mediapart, où il a fallu défendre notre enquête, où parce que le ministre démentait, nous étions le pire du journalisme, et quand il a avoué, nous sommes devenus le meilleur du journalisme. Ce qui est absurde, on n'est ni le pire ni le meilleur, on a juste fait notre travail dans cette histoire. Et c'est vrai qu'il y a eu ensuite un effet où il y a eu plein de papiers dans la presse française pour dire « mais c'est vrai, c'est incroyable comme il se défendait mal, ce Cahuzac. Mais pourquoi vous ne l'avez pas écrit à l'époque? Pourquoi vous l'écrivez maintenant qu'il est à terre, Jérôme Cahuzac ?» Et j'en terminerai avec, et on en a parlé là, mais ce qu'on nous a toujours reproché dans cette histoire, avant de dire qu'on était des super journalistes, c'est « mais où sont les preuves ?» Et Plenel et moi, on passait notre temps à la télé à répondre à cette question. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Où l'espèce de confrère se transformait en espèce de juge du tribunal de l'opinion. Voilà, du tribunal populaire de l'opinion, comme ça. En disant, j'en ai pas assez, etc. Il faut bien voir que quand l'Express sort l'affaire Ben Barka, De Rogy, Jacques De Rogy et Jean-François Kahn, à l'époque, ils n'ont pas un élément matériel. Ils ont des sources. Ils ont des sources qui leur donnent des éléments précis, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand le Washington Post sort le Watergate, vous pouvez revoir le film Les Hommes du Président de Pakula, Woodward et Bernstein, ils n'ont pas de documents. Hein. Par contre, ils en ont des sources. Ils ont 2 ans de sources, 2 ans d'enquête. Juin 72, premier papier, août 74, démission de Nixon. Quand Claude Angéli, dans Le Canard Enchaîné, révèle l'identité des agents de la DST qui ont posé des micros au canard. Claude Angéli, il n'a pas un document du ministère de l'Intérieur. Voici le nom des agents de la DST qui ont déposé les micros. Mais il a des sources. Quand Plenel révèle le Rainbow Warrior en 85 dans Le Monde, il n'a pas un document édouillé avec, en tête du ministère de l'Intérieur, signé Charles Hernu, merci monsieur, madame de la DGSE de couler le bateau et au passage de tuer un photographe. Non, il a des sources, édouillé. Nous, dans cette histoire, le plus fou, c'est qu'on avait des sources et des documents. Et qu'on nous disait, où sont les preuves? Où sont les preuves? Ce que je veux dire par là, c'est que vous serez forcément confronté un jour ou l'autre à des formes d'irrationalité face à vos informations qui sont entretenues par la communication. Et donc, c'est toujours bon de le savoir parce que c'est la meilleure façon de le combattre.
C'était l'affaire Cahuzac en bloc et en détail, une émission de l'Atelier des médias signée Simon de Creuse et Ziad Malouf. Merci à Fabrice Arfi, merci aux équipes de CFI et merci à François Bonnet qui avait joué un rôle déterminant dans la réalisation de cette émission. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.